Les Enfers, épisode 2. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 50e épisode de la mythologie. Les différentes villégiatures des Enfers. Plusieurs séjours des morts sont distingués clairement et il s'introduit le règlement d'un jugement post-mortem fondé sur les qualités et les défauts de chacun devant un tribunal présidé par Minos, Éaque et Rhadamante. Les séjours des morts peuvent ainsi être les Champs-Élysées, le pré de l'Asphodèle, l'endroit commun des défunts où les esprits mènent une existence sans consistance, et le Tartare. Les portes des rêves, cornes ou ivoire. Hypnos, le sommeil, et Thanatos, son frère, la mort, séjournaient dans le monde souterrain d'où les rêves montaient vers les hommes. Ils passaient par deux portes, l'une faite de cornes pour les rêves véridiques, l'autre d'ivoire pour les rêves mensongers. Anchise dit qu'il existe deux portes du sommeil. La première est de cornes et donne un accès facile aux ombres véritables. L'autre est faite d'ivoire éclatant et resplendit. Mais c'est par elle que les âmes des morts envoie vers le ciel des songes trompeurs. Tout en parlant ainsi, Anchise reconduit à cet endroit son fils aîné et la Sibylle et les fait sortir par la porte d'ivoire. Mais qui est ce vieux boiteux d'Anchise ? Dans la mythologie grecque, Anchise est le fils de Thémitée et de Capis. Il est le père d'Énée, qui lut de la déesse Aphrodite. Selon la tradition, il fut remarqué par la déesse alors qu'il gardait un troupeau sur le mont Ida. Pour parvenir à ses fins, Aphrodite lui fit croire qu'elle était une mortelle. Elle ne révéla sa véritable identité qu'après s'être unie avec Anchise. Elle lui annonça alors qu'elle lui donnerait un fils qui serait élevé par les nymphes jusqu'à l'âge de 5 ans, âge auquel elle le remettrait entre ses mains. Elle lui fit également promettre de taire cette union contre nature. Mais un jour, quand Anchise était ivre, il oublia la parole donnée et se vanta de son aventure. Pas de quoi fouetter un chat, surtout quand on connaît les conquêtes de sa dulcinée. Zeus en prit ombrage. Pour le punir, il le frappa d'un éclair, mais Aphrodite détourna le coup qui ne fit que l'effleurer et le rendit boiteux. Bien plus tard, Anchise se retrouve mêlé à une des scènes les plus fameuses de la prise de Troie, qui voit Énée, son fils, fuir la ville, emportant son père sur ses épaules. Il s'embarque alors avec ses dieux pénates et ce qu'il possède de plus précieux. Les pénates étaient des divinités étrusques, puis romaines. Ils sont chargés de la garde du foyer et plus particulièrement des biens, du feu servant à faire la cuisine et du garde-manger. Regagner ses pénates signifie rentrer chez soi. Cela signifiait que les dieux de la maison, divinités, protégeaient la demeure. Par extension, ils désignent aujourd'hui le foyer, le lieu sûr où l'on se sent protégé avec une bonne alarme, une caméra de surveillance reliée au commissariat et au smartphone, des grilles devant toutes les portes, une porte sécurisée, une alarme incendie, sans oublier un chien terreur qui n'aime pas les boulettes. Bref, tout ce qui est nécessaire dans un foyer pour ne pas être violé dans son intimité. Pauvre Anchise, il n'avait rien demandé. Fallait qu'il tombe sur un agent double. Heureusement qu'elles ne sont pas toutes comme Aphrodite. Sinon, ce serait à désespérer de la gente féminine. Nuit et brouillard de l'Éreb. L'Éreb est la région la plus proche de la surface de notre bonne vieille terre, où vous et moi marchons encore. C'est ici que les âmes des humains vont pendant leur sommeil. On y trouve trois palais, le palais de la nuit, le palais des songes et le palais du sommeil. C'est aussi dans ce même lieu qu'habitent Cerbère, Thanatos, les Érinyès et les Moires. L'Éreb est toujours noyé dans un brouillard noir. Les Érinyès, pire que les Gorgones. Les Érinyès sont appelées parfois déesses infernales, sont des divinités persécutrices. Athéna aurait obtenu d'elles qu'elles devinssent des divinités protectrices d'Athènes sous le rôle de gardienne de la justice. Plus tard, Euripide les a identifiées avec les Euménides. Elles correspondent aux Furies. Divinités anciennes, elles ne sont pas soumises à Zeus et habitent l'Éreb ou le Tartare suivant les traditions, dans le monde du dessous, se reposant jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau appelées sur terre. Malgré leur apparence divine, les dieux olympiens éprouvent une profonde répulsion pour ces êtres qu'ils ne font que tolérés. De leur côté, les hommes les craignent et les fuient. C'est cette marginalisation et le besoin de reconnaissance qui, chez Eschyle, amène les Érinyès à accepter le verdict d'Athéna et ce, malgré leur inépuisable soif de vengeance. Les pauvres, ce sont des mal-aimés. Déesses des ouragans, on leur attribue l'enlèvement de ceux qui disparaissent à la guerre ou loin de chez eux en mer. Elles personnifient la malédiction lancée par quelqu'un et sont chargées de punir les crimes pendant la vie de leur auteur et non après. Oh, je pense que j'ai des candidats pour vous. Toutefois, leur champ d'action étant limité, si l'auteur du crime décède, elles le poursuivront jusque dans le monde souterrain. juste, mais sans merci. Aucune prière ni sacrifice ne peut les émouvoir, ni les empêcher d'accomplir leurs tâches. Elles refusent les circonstances atténuantes et punissent toutes les offenses contre la société et la nature, telles que le parjure, la violation des rites de l'hospitalité et surtout les crimes ou l'homicide contre la famille. Vous avez entendu, il n'y a pas les sept péchés capitaux, sinon ce serait l'enfer, mais tenez-vous tout de même à carreau. À l'origine, les êtres humains ne peuvent ni ne doivent punir les crimes horribles. Il revient aux Erignès de poursuivre le meurtrier de l'homme assassiné et d'en tirer vengeance. Némésis, déesse de la juste colère, correspond à une notion semblable et sa fonction recouvre celle des Erignès. Ces divinités vengeresses, hideuses, ont de grandes ailes, des serpents pour cheveux, comme les gorgones, des fouets et des torches, du sang qui coule de leurs yeux. Quelle jolie description! Elles tourmentent ceux qui font le mal, elles les poursuivent inlassablement sur terre en les rendant fous. Au sens large, les Erignès sont les protectrices de l'ordre établi. Dans l'Iliade, ce sont elles qui ôtent la parole à Xanthé, le cheval d'Achille, et privent Phénix de descendants. Leur rôle dans l'ordre social des hommes et des choses est tel qu'il a fait dire au philosophe Héraclite que si le soleil décidait de dévier sa course, elle saurait l'y ramener. On pouvait les comparer à des jeunes filles cyniques et méchantes à la croissance très rapide. De petites filles devenues adultes en quelques jours, comme les trois Eumédides de l'œuvre de Jean Giraudoux. Dans la pièce, elles chantent des comptines satiriques sur les personnages et vont poursuivre Oreste jusqu'à lui faire perdre la raison. Rire sarcastique. Elles ont été comparées aux Gorgones, au Gré, sœur aînée de Méduse et des Gorgones, ainsi qu'aux Harpies, en raison de leur apparence effrayante et sombre et du peu de contact qu'elles entretiennent avec les dieux olympiens. Pire ou meilleur? Entre les deux, mon cœur balance. Surtout, ne les réveillons pas. Et laissons-les dans leur pénate de les rêves. Les bienheureux des Champs-Élysées. Appelée aussi l'île des bienheureux, Homère et Hésiode pensaient que cet endroit était situé dans le lointain qui se trouve à leur ouest, au-delà des flots de l'océan. Certains héros en faveur auprès des dieux y étaient par eux envoyés au lieu de mourir. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Ils y jouissaient d'une entière et plaisante nouvelle vie. Là-bas, c'était le printemps éternel et on y trouvait beaucoup de fleurs, de végétation et d'oiseaux qui symbolisaient la gaieté. Cette région était également traversée par un fleuve appelé le Léthé. Si vous y allez, ramenez quelques photos. Dans la mythologie postérieure, on se représente Élysée comme une partie des enfers gouvernée par Radamante. Pour lui, comme pour Platon, c'était le lieu où les âmes vertueuses séjournaient temporairement avant d'être réincarnées. Aux frontières des Champs-Élysées se trouvent le palais d'Hadès et Perséphone. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Le Tartare, l'Alcatraz de l'enfer. On change de ton. Le Tartare n'est pas qu'un fromage. C'est aussi la région la plus profonde des enfers. Là séjournent les quelques criminels mythiques célèbres. Ils reçoivent leurs punitions telles que les Danaïdes, Ixion, Sisyphe, Tantale, etc. C'est aussi la prison des dieux déchus, comme les titans et les géants et tous les anciens dieux qui s'étaient opposés aux Olympiens. Il s'agit du lieu où l'on expie ses fautes, où toutes les formes de torture physique ou psychologique sont représentées. À l'intérieur de sa triple enceinte d'airain, il renferme les plus grands criminels. C'est une région aride, sans vie et monotone, avec parfois des étangs glacés, des lacs de soufre ou de poix bouillante où baignent les âmes malhonnêtes. L'endroit est entouré par des fleuves aux eaux boueuses, des marécages à l'odeur nauséabonde qui forment un rempart pour que nulle âme n'échappe à sa peine. La distance du Tartare jusqu'à la surface est égale à celle qui sépare les cieux de la surface. Il soutient en outre les fondements des terres et des mers. Dans cette vaste région s'élevait également le palais d'Hadès, pourvu de nombreuses portes et peuplé d'hôtels innombrables. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Et n'ayez pas peur, nous ne sommes pas arrivés encore à l'heure du jugement de Minos, Déacte et Radamante. Juste une pause nocturne pour retrouver des forces dans les bras de Morphée. De toute façon, vous êtes sages comme des images, parfois même trop, et il n'y a pour vous que les Champs-Élysées qui vous attendent. La prochaine fois, nous parlerons des grands criminels du Tartare. Merci de rester fidèles à nos contes mythologiques. Je me permets de vous souhaiter, avec les oiseaux des Champs-Élysées, une douce et agréable nuit.